Le roi des salauds ressemble à Himmler, Himmler à Hitler et Hitler à Henriot. Ce qui fait qu'en fin de compte, le roi des salauds ressemble à Henriot comme deux gouttes d'eau.
Mais en fait, donc, l'abbé profitait de cette structure chrétienne autour de la cure avec une totale confiance.
Oui. Ah, ça, c'est vrai qu'il nous a fait vraiment confiance. Et ça, vous savez, alors, je vais vous dire autre chose. C'est la chance de notre génération. On nous a fait confiance. Et ça, on sera jamais, on le dira jamais assez, que ce soit nos parents, que ce soit les instances avec lesquelles on a travaillé à tous les niveaux, religieuses et autres, et administratives et autres. Quand je pense à la confiance qu'on nous a fait quand on avait 16, 18 et 20 ans, c'est extraordinaire. Je crois que c'est ce qui manque aux jeunes de maintenant. On ne leur fait pas confiance assez tôt pour se battre eux-mêmes avec la vie, avec les problèmes, avec les difficultés. On les couvre trop, y compris moi avec mes enfants. Hein. On a tellement tendance à vouloir leur éviter des choses qu'on a connues, je crois qu'on a tort. Parce que finalement, bon, ça a été dur par moments, ça a peut-être été difficile, mais ça nous a donné une structure mentale, une façon de réfléchir aux choses, voire juger, agir. Moi, je m'en défends maintenant parce que ça me paraît un peu sommaire. Enfin, vous savez, ça nous a appris à regarder, ça nous a appris à réfléchir, ça nous a appris... Et puis, en plus, quand il y a un problème, on n'est pas accablé devant le problème. On dit, bon, par quel bout on va l'empoigner pour le résoudre, hein. Et on sait aussi, quand on en a résolu, il y en a deux autres qui poussent, et ben, qu'il ne faut pas s'en étonner et qu'il faut y aller, quoi.
Mais les gens ici autour de... Est-ce qu'ils savaient ce qui se passait autour de la cuire ?
Tout le monde ne le savait pas. Tout le monde ne le savait pas. Cette cure, c'est une espèce d'enclave. Puis alors, je vous assure qu'on était discrets. Hein. On ne parlait pas, on ne disait pas, on ne racontait pas. On savait que la vie des gens était en jeu et qu'il ne fallait pas parler. Pourtant, on était jeunes. Moi, je me rappelle très bien d'avoir passé une soirée à m'engueuler, le terme n'est pas trop fort, avec un curé qui était de Douvaine, qui était le curé d'une paroisse à une vingtaine de kilomètres d'ici. Alors, toujours pareil, je faisais une journée rurale là-bas dans sa paroisse. On m'avait logé à la cure, ça m'arrivait souvent. Comme il était douvénois, on a beaucoup parlé le soir. Et lui, il était complètement au sans-coup parce que le maquis des Voirons avait la réputation d'être un maquis communiste. Et dans le courant de la conversation, il m'a dit, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des canons pour aller nettoyer ce maquis, il faut tout tuer là-dedans, ce sont des communistes, ce sont des gens épouvantables. Et moi, je l'ai engueulé, mais vraiment, quand j'y pense maintenant, je me dis que j'avais un culot pas possible, mais enfin, c'était bien tout ce qui méritait quand même d'avoir dit ça. Je dis, comment vous pouvez dire des choses pareilles, vous, un prêtre de Dieu, et la charité, qu'est-ce que vous en faites, etc. Mais j'ai pas eu une seconde l'idée de lui dire, mais enfin, vous savez ce que l'abbé Rosay fait à Douvaine. J'aurais pu lui dire ça, ça aurait été ma meilleure justification, le meilleur argument que j'aurais pu avoir. L'abbé Rosay, il le connaissait très bien, il l'avait en vénération. C'était l'archiprêtre de Douvaine, c'était un prêtre qui avait une grande renommée. Il était un très très bon théologien, un grand musicien, un homme intelligent. Il avait eu tout un processus que tous les prêtres n'ont pas. Ça m'est même pas venu à l'idée de lui dire ça. Je ne pouvais pas, c'était impossible. C'était condamner peut-être l'abbé Rosay parce que il y avait une telle discordance dans leur vue politique, en se situant. C'était un anticommunisme primaire qui leur faisait penser qu'il ne fallait pas être communiste, qu'il fallait détruire le communisme. Que donc, puisqu'Hitler se battait contre les communistes, il fallait être du côté d'Hitler. Enfin, c'était aussi énorme que ça. Et c'était le cas d'un tas de gens.
Parce que Douvaine, ils étaient plutôt du côté de Pétain.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Quand on est un salaud, un vrai, un pur, un beau, on se met au service de la maison Himmler,
de la maison Himmler.
Puis on fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du Führer,
aux ordres du Führer.
La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'abjection. Voilà les gars de la vermine, chevaliers de la bassesse, voilà les Waffen-SS, voyez comme ils ont fière mine. C'est dans le genre crapuleux ce qui se fait de mieux. Avant qu'on ne les extermine, regardez-les consciencieusement. Voilà les gars de la vermine, du plus petit jusqu'au plus grand, du Saint-Voyou à Darnan, ils sont allemands.
Et que vous, avec votre famille, vous avez pu parler de ce que vous faisiez ?
Moi, j'en ai pas trop parlé.
Mais ils le savaient ?
Alors, sur les Juifs ici, ils en parlaient. On en parlait parce que bon, il y en avait plein à la maison. Il y en avait tout le temps ici. On en a vraiment eu beaucoup ici. Et puis on a eu la petite Tania là qui est restée de 3 ans, qu'on voit toujours d'ailleurs, qui appelle toujours ma maman, maman, et qui est comme notre petite sœur. Mais j'ai eu d'autres activités dans la résistance. J'ai passé du matériel de santé qui était parachuté. Ça, je l'aurais pas dit. Parce que j'aurais été prise avec ce matériel de santé, c'était des bandes, c'était des seringues, c'était des antibiotiques, des choses comme ça. Et tout était tamponné avec la Croix de Lorraine. D'ailleurs, ils auraient bien mieux fait de la mettre ailleurs, la Croix de Lorraine, ça ne servait à rien. Mais j'aurais été prise avec ça, alors ça, j'étais bonne comme la romaine. Vous savez, il fallait pas grand-chose pour être embarqué au Pax, torturé, emmené à Drancy et en camp de concentration à l'époque, à la fin, notamment la dernière année entre l'année 44, jusqu'à ce que il n'y ait plus d'Allemands en Haute-Savoie. Et en plus, ils étaient complètement sur les dents parce que la résistance les harcelait de tous les côtés. Quand vous étiez pris avec n'importe quoi, ça n'avait pas besoin d'être un revolver. Hein, et ça, je faisais ça avec un médecin d'ici qui m'avait demandé de... Moi, j'étais toujours à Metz, donc dans ma maison familiale. Alors, je revenais avec des sacs à dos pleins de matériel comme ça. Ça, j'ai jamais dit à mes parents, parce que ça les aurait inquiétés, ils auraient eu peur.
Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas, la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, bébé. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en effet les doriforts, et sans remords, et sans remords, et sans danger, et sans danger. Vous sifflerez et chanterez bébé.
Pourquoi vous faisiez ça? Qu'est-ce qui vous poussait à faire ça?
Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On pouvait pas voir ses enfants arriver et penser qu'ils allaient passer dans des chambres à gaz, être tués, être emmenés dans les camps de concentration et ne pas les aider.
Vous saviez que c'était qu'ils allaient à la mort?
Ah oui, oui. Là, vraiment, quand on avait lu Témoignage chrétien, à partir du moment où on a eu connaissance de ce qui se passait en Allemagne, l'horreur, l'abjection, les choses effroyables qui se sont passées, on ne les a su qu'après. Bon, on en savait bien assez pour ne pas pouvoir faire autrement que de prendre position. Je crois aussi, il faut être juste, on était jeunes, l'abbé Roset avait une énorme influence sur nous. L'abbé Roset était un homme en qui on avait nous aussi une énorme confiance. Bien qu'il ne soit pas toujours commode, il n'avait pas toujours un caractère facile. Moi, j'étais peinée par cette attitude discriminatoire qu'il avait vis-à-vis des femmes. Ça m'a toujours ennuyé avec la bière. D'ailleurs, je lui ai dit à plusieurs reprises, mais ça, c'était sa formation. Ça, c'était dans les grands séminaires autrefois, la femme, c'était le péché. Il fallait la tenir comme ça, à distance. Pauvre femme. Nous aussi, on avait confiance en lui. Quand il nous disait, moi, je me rappelle une fois, je faisais la vaisselle, il est venu, il est arrivé dans mon dos, là, dans la cuisine, il était entré, la porte d'entrée devait être ouverte, en plein été. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez emmener deux dames à Végie? Bien sûr. Quand? Tout de suite. D'accord. Alors il a commencé à me dire, écoutez, je crois que ce serait bien que vous passiez par les bois de l'orphelinat, etc. Alors, je lui ai dit, non, monsieur le curé, moi je ne suis pas une fille qui court les bois, si on me voit courir les bois, ça va vraiment paraître suspect. On va prendre nos vélos et on va y aller par la route. Ah bon, vous croyez? Oui, oui, je suis sûr. Et on a fait ça. Et je me rappelle très bien que je les ai amenés à la cure de Végy, parce que c'était de ça qu'on m'avait chargé. Et le curé de Végy, je suis arrivé dessus comme ça sans prévenir. Il n'y a pas de téléphone à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. Le curé de Végy, bien, vous direz à l'abbé Roset que ce soir, ils seront remis à qui de droit. Et qui de droit, c'était les deux passeurs en question qui habitaient à 1 km, 500 mètres, je ne sais pas, 700-800 mètres de la cure. Alors on allait à la nuit tombée chez Lançon, qui, dès qu'il pensait que c'était le moment, allait couper les barbelés pour faire passer ses...
Si tous les nazis avaient des clochettes, chaque fois que la Russie leur flanque une piquette, ça ferait tant de raffus qu'on ne s'entendrait plus.
Et les Suisses, vous aviez des contacts?
Non. La frontière était totalement fermée. Moi, je suis entrée en Suisse après la libération de la Haute-Savoie parce que j'avais un ami de ma famille qui était inspecteur des douanes à Moelsul, qui m'a fait passer, c'était en 44, à l'automne 44. Je me vois encore devant un magasin de chaussures à Genève. Je regardais ce magasin comme si j'avais jamais vu de chaussures de ma vie. On portait des semelles de bois, nous, depuis plusieurs années. On savait plus ce que c'était qu'une paire de vraies chaussures. Et je devais avoir l'air complètement ébahi devant ce magasin. J'étais allée voir des amis qu'on avait là-bas, qu'on n'avait pas vus pendant toute la guerre.
Vous ne saviez pas donc que la Suisse était relativement fermée aux Juifs?
Non. Non, sincèrement non. Moi, je pensais que la Suisse était vraiment une terre d'asile et que tous ceux qu'on avait fait passer y étaient restés. On a su après qu'effectivement, il y en avait quand même pas mal qui avaient été renfloués. Repoussés, est peut-être le terme plus exact. On a su une fois que des jeunes gens d'ici, que je connaissais très bien, qui étaient susceptibles de partir au STO et que l'abbé Roset avait fait passer en Suisse, avaient été refoulés. Ça, on l'avait su parce qu'ils s'étaient après cachés dans leur cave, ils ne sont pas partis au STO, ils ont passé le reste de l'occupation dans les caves et dans les resserres de leurs parents, à aller d'une maison à l'autre, à sortir la nuit, etc. Mais ça, moi, c'est le seul cas dont j'ai eu connaissance. Et vraiment, du monde, ici, il y en a passé beaucoup. Hein. Mais ce n'était pas tellement sur cette frontière-là que les Suisses les repoussaient. Je crois que c'était plus du côté de Collonges-sous-Salève et dans ces coins-là. Là, il y en a eu pas mal qui ont été remis de l'autre côté de la frontière.
Mais un peu de patience, ils quitteront la France. Vous ne les verrez plus, ils sont déjà, vous m'entendez. Vous ne les verrez plus, ils sont déjà foutus.
Et puis en 44, vous dites que la situation se gâte, puisque c'est les Allemands qui viennent en Haute-Savoie. Et
43.
En 43.
En 43,
et l'abbé Roset sera inquiété, arrêté, déporté avec les passeurs. Et vous-même, est-ce que vous avez eu peur à certains moments? Est-ce que vous avez été inquiété?
Oui, j'ai eu peur. On avait tout le temps peur. On avait peur tout le temps. Moi, je me rappelle très bien d'une fois où... la fois où j'ai eu le plus peur, c'est une fois où je venais d'Annemasse à Douvaine avec plein de matériel. Alors ça, c'était pas dans le cadre de la filière de l'abbé Roset. Hein. C'était avec ce médecin de Douvaine qui s'appelait le docteur Drogou et qui était médecin du maquis. Et j'avais un sac à dos sur les épaules, plein de matériel que j'avais été chercher à l'hôpital d'Ambilly, il y avait des mots de passe, et il y avait un Allemand qui arrêtait tout le monde là-bas au croisement de Livron, et qui m'a dit halt, et j'avais 20 ans, je lui ai fait un grand sourire, parce que je voulais tisser comme ça, et j'ai filé. Il m'a regardé un peu ébahi, et il ne m'a pas tiré dessus, il ne m'a pas arrêté, il ne m'a pas couru après. Je me rappelle que je suis arrivée au rendez-vous des chasseurs, 5 km plus loin, j'avais encore les jambes comme ça, je pédalais, je ne sais pas trop comment, avec des jambes en caoutchouc. On avait peur tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'avait pas peur, on avait peur tout le temps, mais on a moins peur à 20 ans qu'à 60. Hein. La vie est moins précieuse quand on est jeune, parce qu'on est inconscient. Mais dire qu'on n'avait pas peur, ce serait vraiment mentir. Mais on avait... le sentiment qu'on faisait ce qu'il y avait à faire. On n'avait pas non plus le sentiment d'être des héros, alors pas du tout. Et toujours, vous savez, j'ai jamais eu le sentiment qu'on avait fait des choses héroïques. On a fait ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est très paysan comme réflexe. Il y a eu aussi des gens qui ont fait des passages à la frontière Et il y en a qui l'ont fait vraiment pour gagner de l'argent. Il y en a même qui ont fait des choses horribles, qui ont noyé les Juifs au milieu du lac, hein, et puis pris leurs valises et pris tout ce qu'il y avait dedans. On a vu de tout, vous savez, dans cette période-là. Et je crois que c'était aussi pour ça qu'on avait tellement de mal à en parler. Parce que l'abbé Roset, il n'a jamais eu un sou de personne. Mes camarades et moi, la même chose. Je vous dis, de l'argent, à l'époque, ça ne comptait pas. Ça ne nous serait vraiment pas venu à l'idée. Mais tout le monde n'avait pas ce genre de scrupules. Et il y avait aussi des Juifs, par exemple, qui avaient beaucoup d'argent. Et il y en a qui se sont fait plumer jusqu'à l'os par des gens sans scrupules. Il y en avait d'autres qui avaient une morale. Il y avait des pasteurs ici. Il y en avait un que je ne nommerai pas, mais que j'ai bien connu. Il avait un tarif qu'il appliquait pour passer les gens à la frontière. Il les passait très bien. Il ne les laissait pas au milieu des champs en leur disant « je vais revenir dans 5 minutes ». Il les passait. Et puis, il était aussi très capable, s'il y avait des enfants et qu'ils n'avaient pas le sou, de les passer aussi. Vous voyez, il y avait tous les genres. Mais il y a eu des choses terribles. C'était terrible, cette affaire de l'abbé Roset. Quand on relit les témoignages des déportés qui ont été avec lui, quand on relit l'attitude qu'il a eue avec les déportés, comme il a été extraordinaire... dans le malheur, mais extraordinaire, bien plus grand encore que dans sa vie de curé de campagne.
Mais alors,
c'est très bouleversant, vraiment très bouleversant.
Alors, au moment où il est arrêté, déporté, qu'est-ce qui se passe avec le réseau ?
Écoutez, le réseau a continué vaille que vaille, avec évidemment un passage beaucoup moins important ici. Parce que c'était très surveillé, s'ils avaient arrêté l'abbé, puis les passeurs de Végie n'existaient plus. À ce moment-là, le réseau s'est replié, je dirais, sur Ville-la-Grand et sur Collonges-sur-Salève. C'est là où les gens ont passé. Ça n'a pas duré très longtemps, enfin, ça a duré quand même de février 44 à août 44, puisque la libération de la Haute-Savoie a eu lieu en août 44. Donc il y a eu 6 mois là qui ont été... Mais ce sont les autres points de passage qui ont pris de l'importance. Il y a dû en avoir encore il y en a encore eu quelques-uns par là. Puis il y avait toujours les enfants qui étaient dans les familles. Il y a eu des gens présents. On en a encore passé. Rolande Birgi, qui était la jeune femme qui s'était déguisée en cheftaine de Louveteau et qui mettait des foulards et donnait des bâtons aux gamins qu'elle passait depuis Lyon, depuis Grenoble, etc., continuait de venir. Elle avait trouvé d'autres solutions. Probablement un peu onéreuse. Elle devait payer un peu certains passeurs pour qu'ils passent quand même, notamment les enfants.
Et puis là, au moment de la libération, comment votre vie se transforme ? Où est-ce que votre vie se transforme ?
Au moment de la libération, on a été très heureux que les Allemands s'en aillent. Très heureux et très malheureux. Moi, j'avais un fiancé qui était mort à la guerre. Il était mort les tout derniers temps de la guerre. En avril 45, il est mort. Donc, au moment de la libération, ça a été une période à la fois où on a été très heureux parce que les Allemands s'en allaient et à la fois très malheureux parce qu'il y a eu des choses insupportables. Par exemple, les femmes tondues, c'était horrible. C'était insoutenable. Moi, je ne peux pas dire l'impression que j'ai eue ce jour-là, que la France était abjecte, que les Français étaient abjectes, que des Français puissent faire des choses pareilles, ça me paraissait abject. Ah oui, il y en a eu à Douvaine. Il y en a eu une jeune femme dont on disait qu'elle était la maîtresse d'un Allemand qui était en occupation par là. Je ne sais même pas si on avait des preuves de ça. Et puis enfin, elle n'a pas fait de l'espionnage ni de la délation, elle. Il y a eu des curés qui, innocemment, je dis innocemment parce que vraiment c'était innocemment, avaient fait entrer tous leurs jeunes, les jeunes de leur chorale, à la milice. Il y a eu des 20 jeunes gens dans certains villages qui ont été fusillés au moment de la libération parce qu'ils étaient miliciens et qu'ils n'avaient pas été regardants non plus sur les moyens qu'ils avaient employés contre les maquisards. Puis alors vraiment, c'était une période où on ne faisait pas le détail, vous savez... Où les actes d'héroïsme côtoyaient les règlements de compte, les vengeances personnelles ou autres, où il y avait un peu de folie dans l'air aussi, où il y avait toutes sortes de choses terrifiantes. Alors, dire que, en plus, on a mobilisé les jeunes, moi, le fiancé en question, il a été mobilisé dans la fin de l'année 44, et il est Il est mort en avril 1945, dans les tout derniers jours, juste avant la fin de la guerre, dans un nid d'Allemands qui était resté là dans les Alpes. Vous savez, et il y a des choses comme ça, il y en a eu des quantités. Alors, bon, bien sûr, l'abbé Roset, on ne savait pas où il était, on ne savait pas ce qu'il devenait. Il est mort, lui, juste aussi quelques jours avant la libération du camp de Bergen-Belsen. Et probablement pas de mort naturelle. Il semble qu'on a bien aidé à mourir les gens qui n'étaient pas morts à ce moment-là. Les Allemands ne voulaient pas qu'il y ait de survivants de ces camps de la mort, de ces camps d'extermination. Et il y avait un tel mélange d'horreur et de soulagement. Je crois que c'est aussi ça qui a fait qu'on pouvait tellement pas en parler après. Oui, dire que une guerre, ça se termine dans l'euphorie, sûrement pas. Sûrement pas. Et même quand on entend, c'est vrai que la France n'a pas eu tellement de morts à cette guerre-là. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une hécatombe comme pendant la guerre de 14-18. C'est vrai qu'à côté des 6 millions de Juifs ou des... combien de millions ? 12 millions de Russes ? Et je ne sais pas combien de millions d'Allemands. En France, on a eu beaucoup moins de morts. Encore tous trop. Hein. Il y a eu ces ambiguïtés, ces prises de position, notamment dans les villages, dans les petits patelins, dans les quartiers, parce qu'en ville c'était la même chose, parce que c'était par quartier, de ceux qui croyaient bien faire, et puis ceux qui avaient intérêt à être du côté des Allemands. Il y a eu des délations. L'abbé Roset, on a toutes les raisons de penser que c'est des Douvenois qui l'ont vendu, comme on disait aux Allemands. Parce que passer des Juifs, enfin, la lie de la terre, les Juifs, empêcher les jeunes de partir au STO, mais enfin, c'était vraiment pas possible, il fallait partir au STO. Enfin. Et tout ça, c'était des bons chrétiens, vous savez, c'était des gens, certains, je crois, moi, étaient de bonne foi, ils l'ont payé très très cher à la libération, hein, et ils ont dû s'enfuir, ils ont...
Si tu voulais t'en tirer par hasard, en retournant ta veste, en retournant...
T'en tirer par hasard, en retournant ta veste, en retournant ta veste.
À ce moment-là, vous continuez à travailler dans votre maison ?
Oui, plus tellement longtemps, parce que j'ai rencontré mon mari fin 45, à une époque où je croyais que je me marierais jamais plus, que c'était fini pour moi, la vie sentimentale. Et puis j'ai rencontré mon mari, et on s'est mariés en 47, mais enfin... Alors, je suis devenue directrice de cette maison familiale la dernière année, parce que Germaine, elle était partie faire autre chose. J'en suis devenue directrice. J'ai assuré l'intérim, comme ça, pendant une année. Puis après, on s'est mariés. Et j'ai quitté la Haute-Savoie. On est allé s'installer dans la région parisienne. Alors là, ça, c'est un autre épisode. J'ai plus travaillé. Ça nous a paru naturel à tous les deux. Moi, je veux dire, je crois que j'étais fatiguée aussi. J'avais fait tellement de choses pendant ces 6 années. Alors ça, curieusement... Ça ne m'a pas paru bête ni anormal d'être chez moi, de fabriquer quelques enfants et de les élever. J'ai eu 4 enfants, ce qui n'est pas le Pérou. Moi, je trouvais que c'était déjà pas mal, mais je n'étais pas très douée pour être mère. J'étais plus douée pour m'occuper d'adolescents que pour m'occuper de bébés. Heureusement, j'avais un mari qui était très doué pour être père, alors ça compensait. Mais c'était une époque où, quand on se mariait, ça nous paraissait assez raisonnable de rester chez soi. J'avais un mari qui faisait plein de choses intéressantes, alors j'en ai largement profité. J'ai toujours eu beaucoup de monde à la maison. J'ai toujours été dans le coup, si vous voulez. Je suis toujours intéressée à des tas de choses. Si, bien sûr, je me suis occupée d'un service d'aide familiale, je me suis occupée de tas de trucs. Puis après, vous savez, quand vous avez des enfants, vous avez assez d'associations de parents d'élèves. En mai 68, mon mari était président de l'association de parents d'élèves du lycée de nos enfants, qui avait 2000 élèves. Je vous assure que ce n'était pas triste à la maison. Mais non, j'ai pas travaillé. André étant toujours dans des professions de formation professionnelle de jeunes, ce qu'il a toujours demandé un grand engagement de sa part, je l'ai aidé du temps que j'ai pu et j'ai beaucoup participé à tout ce qu'il a fait. Si vous voulez, on a été engagés, mais pas dans des mouvements, plutôt dans des professions. Après, on est parti en Afrique où, pendant 10 ans, il a travaillé à des projets d'aide au sous-développement. Bon, ben, c'est pareil, je l'ai aidé tant que j'ai pu. On a toujours été engagés dans des coups pas possibles, mais plus dans des mouvements. C'était plutôt des professions engagées. Je crois que l'élan qu'on a eu quand on était jeune, je crois que ça sert toute la vie. Hein, ça nous a marqué, je crois vraiment, pour toute la vie. Enfin, moi, je parle pour moi, mais j'en connais d'autres aussi pour qui ça semble être le cas. C'était tout à fait irréversible, ça. Je crois.
Vous êtes sur Radio Pleine Lune, 93.8 MHz. C'était dans Histoire d'une vie, l'histoire de Marie-Louise, née à Douvaine en Haute-Savoie en 1923. Les musiques qui ont illustré son histoire étaient tirées du 21e concerto pour piano de Mozart, interprété par Mitsukudo Uchida et l'orchestre de chambre anglaise, et ainsi que des chants et poèmes de la résistance française, les chants qu'on pouvait écouter sur Les Français parlent au français, Radio Londres, pendant la guerre. Vous êtes sur 93.8 MHz, c'est La Pleine Lune sur Onde Femme Radio Zone. Vous êtes sur 93.8 MHz, c'est La Pleine Lune sur Radio Zone. Onde Femmes, je vous rappelle notre adresse, Onde Femmes sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 5040 51 41 023, depuis la Suisse. Vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Onde Femme sur Radio Zone. Nous venons d'écouter le 20e concerto pour piano et orchestre de Mozart, interprété par Mitsukudo Uchida au piano et l'orchestre de chambre anglaise. Je vous rappelle notre adresse, Onde Femme sur Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Dans quelques instants, la suite de notre programme.